cours de philosophie critique par le père Marie-Dominique Philippe le 5 mars 1992 à Saint-Jeudard.
Pourriez-vous revenir un instant sur ce que vous disiez au cours de 7h30? La matière première est l'essence la plus indéterminée qui soit. Cela m'oblige d'aller jusqu'au bout de mon concept d'essence. Tout à fait. N'est-ce pas, en critique, que l'on peut dire cela? Oui, tout à fait d'accord. Ce matin, on faisait un peu de critique. On comparait la vision éthique, vous comparez les niveaux d'intelligibilité. Vous êtes en critique. On compare le niveau d'intelligibilité, philosophie première, sagesse. Vous comparez ces niveaux d'intelligibilité, ça c'est la critique. Ça fait partie de la critique de maintenir d'une manière très précise les niveaux d'intelligibilité qu'on confond toujours un tout petit peu sur le terrain d'atterrissage. Le terrain d'atterrissage, c'est nous. Dans l'ordre de l'exercice, on confond tout. Sauf si on est très, très pertinent et pointu. Alors là, on distingue. Parce que sur le terrain d'atterrissage, c'est toujours vous. Alors, n'est-ce pas en critique que l'on peut dire cela? Ici, concept ne serait pas ratio. Oui, ce concept ne serait-il pas ratio? Oui, je suis d'accord. Mais le concept est toujours le concept qui s'appuie sur la ratio. Vous voyez? Je ne dis pas que la ratio, c'est le concept. L'acuité exprime ce qui est définissable. L'intelligibilité que j'ai de la réalité. C'est ça l'acuité. L'acuité poussée jusqu'au bout, au niveau des transcendentaux, au niveau de ce qu'est l'être. Mais vous ne parlez pas beaucoup de l'acuité de l'être. On peut en parler. Saint-Thomas en parle de temps en temps. Mais on dit ratio endis. La ratio endis, c'est l'acuité de l'être. C'est la super acuité de l'être. Dès que vous dites ratio, dites super. Vous allez tout de suite comprendre. C'est du super. Sans plomb. Parce que vous avez tout laissé tomber. Et là, vous avez comme l'intelligibilité pure. La ratio, c'est l'aspect objectif du concept d'être. Ratio endis. Ratio actus. La raison d'essence, c'est la capacité d'exister. Donc, c'est la détermination qui me permet d'exister. Or, dans la materia prima, il n'y a plus de détermination. Il n'y a qu'une pure potentialité. Et cependant, il y a une certaine intelligibilité de la materia prima. C'est l'intelligibilité que j'ai de l'être en puissance. Or, l'intelligibilité de l'être en puissance est toujours en référence à l'être en acte. L'acuité possède en elle-même son intelligibilité. Une réalité qui n'est intelligible qu'en fonction d'un autre, c'est une acuité en puissance. Donc si on parlait d'une façon tout à fait précise, on devrait dire que la materia prima n'est qu'une essence en puissance. Puisqu'il n'y a pas de détermination. sens strict, il n'y a pas de quidité de la materia prima. Il n'y a pas d'essence de la materia prima. Et pourtant, je veux parler de l'essence de la materia prima de façon très analogique. Et ça qui est terrible en philosophie, c'est que on parle tout le temps d'une manière analogique. Et que nous, on est terriblement univoques. Alors on se fixe sur un point, et puis on dit, ah, ça ne va pas. Attention, analogiquement, c'est juste. Je peux parler analogiquement de la materia prima comme essence, puisqu'elle est totalement dépendante de l'être en acte. Vous voyez bien ça, ou bien pas? Oui.
J'arrive pas à faire le lien entre l'essence comme capacité d'exister et l'essence comme forme, comme détermination.
Mais toute capacité d'exister implique une détermination.
Pourquoi?
Eh bien, c'est la forme qui existe. C'est la forme.
Venez.
Quelle différence entre la détermination, forme et l'acte? Pour saisir l'acte, il faut normalement avoir saisi la substance. Pour saisir l'acte, il faut normalement avoir saisi la forme, la détermination formelle. C'est un au-delà de la détermination formelle. La forme, c'est, ça te m'a dit tout le temps, la forme, c'est ce par quoi j'existe. Ce par quoi j'existe. Donc, voyez. Donc, l'essence est une détermination, mais une détermination qui n'est pas ultime et qui est une capacité d'être. La détermination ultime, ce sera l'essai. Et c'est pour ça que ça te m'a dira de temps en temps que l'essai, c'est la forme des formes. Parce que c'est la détermination ultime. En réalité, l'essai n'est pas une détermination, c'est un acte. L'acte, dans ce qu'il a de tout à fait propre, n'est pas une forme, c'est un acte. N'est pas une détermination, mais cependant, il présuppose toujours une détermination, une forme. Mais... pas d'autres questions là-dessus. Quelle différence entre expérience philosophique et expérimentation scientifique? On l'a déjà vu. Je sais très bien que c'est tout le temps à ça qu'il faut revenir. L'expérience philosophique implique le jugement d'existence en acte. L'expérimentation scientifique ne s'inquiète pas du jugement d'existence. Ne regarde que la connexion de l'antécédent et du conséquent. C'est la vérification d'une hypothèse pour voir si ce conséquent dépend bien de l'antécédent et s'il provient bien de l'antécédent. Donc, ce qu'on cherche dans une expérimentation, c'est la vérification d'une relation nécessaire entre antécédent et conséquent. C'est ça que vous cherchez dans une expérimentation. Dans une expérience philosophique, vous cherchez à connaître telle réalité existante, l'exister de telle réalité. Quelle différence entre possible et puissance? Le possible est un type de puissance. Le mot puissance, c'est très curieux le mot puissance, hein, parce que c'est, vous regarderez dans Aristote, hein, ce que c'est que dunamis. En grec, puissance. Potentia. Le de potentia de saint Thomas, hein, traité de la puissance. La puissance peut être comprise comme grosse efficiente. J'ai la puissance de réaliser une maison. J'ai la puissance de construire cette maison. Bon, causalité efficiente. La puissance. J'ai la faculté de. J'ai la puissance. voyez là, puissance au sens de capacité à réaliser quelque chose. Je suis bien éveillé, je peux écouter, j'ai la puissance d'écouter. Tandis qu'au contraire, vous direz, aujourd'hui, je suis complètement endormi. Il suffit de fermer mes yeux pour... J'ai la capacité, je suis incapable de suivre le cours. Impuissant. Vous voyez, donc capacité de... Et puis puissance, peut-être l'être en puissance. L'être en puissance égale possible. Vous voyez, l'être en puissance se distingue de l'être en acte. La capacité de réaliser quelque chose, la causalité efficiente, c'est l'être en acte. Vous voyez, c'est ça qui est terrible. Hein. La philosophie n'est pas au niveau du langage, elle est au niveau de la pensée, comme la science. Les examens sont au niveau du langage. Il faut savoir s'exprimer. On peut très bien ne rien comprendre et s'exprimer très bien. C'est un art, c'est l'art rhétorique. Il y a des gens qui ont un art rhétorique étonnant. Ils arrivent toujours à s'en tirer. Ils n'ont rien compris, rien. Mais ils savent tout. Mais ils n'ont rien compris. Ils disent toujours le mot... C'est la différence entre la virtuelle, le virtuose et l'artiste. L'artiste comprend, le virtuose ne comprend pas. Une habileté prodigieuse, on croit qu'il comprend. Il jette du... aux yeux de tout le monde, de la poudre. La virtuosité. La rhétorique, c'est ça. Le sophiste, il prend le manteau du philosophe. On dit des philosophes, ce qui parle bien. Oui, pour les gens, c'est ça, ils parlent bien. Ils parlent bien. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Vous voyez, l'être en puissance. La puissance, c'est l'être en acte. La puissance, l'être en puissance, c'est le possible. Le possible. Essai, non-essai. Le possible peut exister et le possible peut ne pas exister. Et donc, d'une certaine manière, le possible est au-delà de l'opposition de contradiction. Il peut exister, il peut ne pas exister. Il est possible. Le possible, c'est d'être en puissance. Oui, bien ça. Question de langage, ça. Il suffit d'arriver petit à petit à comprendre que dunamis, l'être en puissance, l'être capable de réaliser quelque chose. Les axiomes propres à chaque partie de la philosophie peuvent-ils être découverts au terme de l'analyse de l'éthique, de la philosophie du vivant, du facere, etc. Autrement dit, peuvent-ils être découverts sans la métaphysique? Dans ce cas, qu'apporte-t-il de nouveau? Le bien, c'est ce que tous désirent. C'est un axiome. C'est pas un principe. Le bien, c'est ce que tous désirent. Mais c'est découvert sans la métaphysique. Tout ce qui est mu, ému par un autre, c'est découvert sans la métaphysique. La métaphysique va préciser cette distinction de l'être en puissance et de l'être en acte. Mais la distinction d'être en puissance et d'être en acte, mais c'est l'expérience commune de tout le monde, quoi. Tous les jours, vous faites l'expérience. Vous dormiez, puis vous êtes éveillé. Vous êtes en acte. Oh, je suis en acte maintenant. Ah, vous dites ça. Quelqu'un qui dit ça. Oh, je suis en acte. Mais il n'a pas fait de la métaphysique pour dire ça. Il est éveillé. pas au niveau métaphysique, c'est au niveau, le sens commun. La métaphysique va donner au langage une nouvelle signification, qui est une signification métaphysique. Je n'invente pas de mots nouveaux. Je n'ai pas envie d'en inventer. Aristote n'en a inventé que deux. Donc, autrement dit, peuvent-ils être découverts sans la métaphysique ? Oui. Dans ce cas, qu'apportent-ils de nouveau ? Ils apportent de nouveau cette attitude réflexive au niveau de l'intelligibilité. Ils sont comme des lois de l'intelligibilité. Le lien entre antécédent et possède est conséquent. Qui dit être en plus être mu implique une dépendance à un autre. Voilà. Un axiome. Si les axiomes présupposent la découverte métaphysique, est-ce un nouveau développement de la lumière de l'acte de chaque partie de la philosophie, ou alors une explicitation au niveau critique de l'antériorité de l'acte qui justifie la possibilité d'élaborer toute la recherche philosophique. Quel est le lien entre les axiomes et les transcendentaux ? Et le lien, c'est que les transcendentaux, c'est ce qu'il y a d'ultime au niveau de l'intelligibilité de l'appréhension. Et les axiomes expriment des liens de nécessité dans les différentes parties de la philosophie. Il n'y a pas de lien immédiat. C'est deux compartiments différents. Les transcendentaux, c'est le compartiment de la première, classe première, les altruistes, les axiomes. Dans chaque partie de la philosophie, vous avez des axiomes. Bon. Alors, on va continuer. Bien comprendre, c'est la question du jugement et de la vérité. Donc, le propre du jugement, c'est d'être capable d'être vrai. Sauf certains jugements qui sont uniquement au niveau possible. Alors, ils sont des jugements hypothétiques. Ils ne sont pas capables d'être vrais ou faux, parce qu'ils sont hypothétiques. Peut-être que demain il pleuvra. Le temps commence à être gris. Peut-être que demain. Est-ce que ce jugement est vrai ? Mais non, par définition, je me mets en dehors de la vérité. Je me mets au niveau possible. Je prends du recul par rapport à la réalité. Je dis c'est possible. Et ça fait partie des jugements. Donc il y a des jugements hypothétiques qui se basent uniquement sur le possible. Il y a des jugements qui impliquent le jugement d'existence. Cela sont vrais ou faux. Vous voyez ? Donc la qualité du jugement, c'est d'être vrai ou fausse, mais je ne peux pas définir le jugement par la vérité, puisqu'il y a des jugements qui sont au-delà de la vérité. Alors qu'est-ce que c'est que le jugement ? Le jugement, c'est l'intelligence qui est capable de faire des relations, de nouer le nom et le verbe. Alors, la division tout à fait première grande diversité de jugements, je me pose la question, quelle est la première division du jugement? Pour voir plus clair, est-ce vérité ou fausseté? Il y a des jugements qui sont vrais et des jugements qui sont faux. Non, puisqu'il y a des jugements qui ne touchent pas à la vérité. Il y aura tant d'habitants au pôle Nord. Ben, c'est une hypothèse. Elle est peut-être scientifique. Sur les statistiques, on peut dire oui, il y a des chances que en l'an 2000, il y aura tant d'habitants à Mexico. Et Mexico deviendra la première ville du monde. Jugement hypothétique. Ni vrai ni faux. Qui sont au-delà de la vérité et de l'erreur. Est-ce que possible et impossible est-ce la division première du jugement? Il y a des jugements possibles, des jugements impossibles. Il est possible que demain il fasse beau. Il est impossible. Celle-là. très beau problème de critique, ça. C'est un problème même très intéressant. Alors, comment pourrais-je répondre à ça? Je peux répondre à ça en regardant ce qu'est le jugement et comment cette division touche ce qu'il y a d'essentiel dans le jugement. Une division qui ne regarde pas ce qu'il y a d'essentiel dans une réalité n'est pas une division première et fondamentale. Elle est accidentelle. Il y a des hommes qui ont des cheveux noirs. Il y a des hommes qui ont des cheveux blancs. Il y a des hommes qui ont des cheveux blonds. Il y a des hommes qui ont des cheveux roux. Est-ce que ça divise l'homme? Non. C'est accidentel. Donc ça ne divise pas l'homme. Tandis que quand ça touche quelque chose d'absolument essentiel au jugement, ça touche. Et c'est pour ça qu'une division première me fait comprendre ce qu'il y a d'essentiel dans cette réalité. Or, qu'est-ce que c'est que le jugement comparativement à l'appréhension? Ça implique une adhésion. J'adhère à la réalité. Et j'affirme que cette réalité est. C'est pour ça que je dis que le premier jugement, c'est ceci est. Et quand je dis ceci est, mon jugement implique une adhésion à cette réalité qui existe. Le jugement, c'est une adhésion, alors que l'appréhension est une assimilation. Le vivant, c'est celui qui assimile. Le jugement, le vivant, c'est celui qui est capable d'adhérer. C'est pas la même chose du tout. Adhérer, assimiler. J'ai besoin des deux, parce que tout n'est pas assimilable. Alors, ce qui n'est pas assimilable, je peux le connaître en adhérant, en respectant ce qu'il est. Et je respecte qu'il est ce qu'il est. Et c'est curieux, hein? Il y a deux types de connaissances. Il y a une connaissance d'assimilation et il y a une connaissance d'adhésion. Je ne peux pas donc définir la connaissance par l'assimilation. Je dois donc respecter ces deux types de connaissances. C'est-à-dire que la connaissance implique assimilation, implique adhésion. Et pourquoi? Et pourquoi ça? Dans ma vie végétative, l'aliment, c'est ce que j'assimile. Ce que je n'assimile pas n'est pas aliment. Ma vie végétative implique-t-elle cette dualité? Qu'est-ce que ça représenterait, l'adhésion, dans un ordre de la vie végétative? La reconnaissance d'un être autre que moi, et qui pourtant vient de moi. Dans la génération, n'y a-t-il pas justement la reconnaissance d'un être qui vient de moi et qui n'est pas moi? Et donc, je l'assimile pas. Une mère possessive, c'est celle qui confond l'assimilation et l'adhésion. Ah, mon petit, je te mange. Et le petit répond, surtout pas, maman. Aime-moi autrement que de me manger. Et dans une mère possessive, elle désire toujours manger son enfant. Comme ça, elle est sûre de le posséder. Elle peut passer toutes les douanes. Elle l'a mangé. Il n'y a plus personne. Tandis qu'une mère qui aime est une mère qui respecte l'autre. Mais comme c'est curieux. Alors, est-ce que je pose la question, vous voyez là, en critique, c'est en critique que je pose la question, est-ce que la distinction entre assimilation et l'adhésion est une distinction fondamentale de la vie. Dans toute vie, il y a assimilation et il y a adhésion. L'adhésion implique le respect de l'autre. Je respecte l'autre, je ne peux pas l'assimiler, je le respecte. Il est autre que moi. Inassimilable. Je le respecte, j'adhère à lui. Je reconnais qu'il est autre. Au point de vue de la connaissance, c'est très net. J'assimile et j'adhère. Et c'est très important, ça, parce que ça montre que la connaissance n'étant pas seulement une assimilation, il y a autre chose dans la réalité que ce qui est assimilable. Pour reconnaître le mystère, pour montrer que reconnaître un mystère, c'est reconnaître quelque chose qui n'est pas assimilable. Si je ramène toute ma connaissance à l'assimilation, je dirais que le mystère, c'est l'absurde, ce qui n'est pas assimilable, donc ce qui n'est pas connaissable, alors que je dirais pas du tout. Le mystère, c'est le supraconnaissable. J'y adhère. Mais je ne l'assimile pas. Ah, ce serait très intéressant de regarder au point de vue de la vie ce qui ramène la vie uniquement à l'assimilation. Au point de vue végétatif, c'est très net. Donc pensez à la nutrition. Pensez à la génération. Dans la génération qui est un acte du vivant parfait, il y a adhésion à un autre que moi. Alors, ici, au point de vue de l'intelligence, c'est net. Le jugement est une adhésion. C'est pas une assimilation. C'est une adhésion. Une adhésion qui prendra deux formes différentes. Et c'est là où je vois tout de suite que la distinction entre affirmation et négation est bien essentielle au jugement. Dans l'affirmation, j'adhère. Dans la négation, je n'adhère plus. Je dis ceci. Je n'adhère pas au néant. Je ne peux pas adhérer au néant. J'adhère à une réalité qui existe, qui est autre que moi, que je respecte. Toute adhésion implique un respect. Je respecte l'autre en tant qu'autre. Tandis que si je reconnais qu'il n'existe pas, je m'écarte de lui. Je me mets le plus loin possible de lui. Il n'existe pas. Je me libère de l'adhésion. Et c'est ça qui est très curieux. Dans la négation, je me libère de l'adhésion, puisqu'il n'existe pas. J'ai nettoyé le terrain. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc marche, avance. La négation met en pleine lumière ce qu'est l'adhésion. J'adhère à une réalité qui existe, qui est autre que moi. La négation me montre que je suis au-delà de cette réalité existante. Et qu'il n'y a que moi qui existe. C'est pour ça que la négation... Quand je nie... Et la négation parfaite, c'est dire ceci n'est pas. Donc c'est le néant, c'est le non-être qui est la négation la plus parfaite. La négation la plus parfaite conduit à l'exaltation de moi. Je suis capable de néantiser. Ah, Alors, voyez, cette formule des modernes que Sartre a mis en pleine lumière, cette formule moderne, je suis capable de néantiser, est-ce que c'est tout à fait juste ? Au point de vue critique, est-ce que c'est tout à fait juste ? Néantiser, qu'est-ce que ça veut dire ? Le néant ne se crée pas. C'est une constatation que la réalité n'existe pas, que telle réalité n'existe pas, que telle forme n'existe pas. Donc c'est la constatation. Je confonds la constatation et la réalisation en disant que je suis capable de néantiser. Je ne suis pas capable de néantiser. Je néantise jamais rien. Et alors, dans la néantisation, il y a l'exaltation de mon intelligence qui est capable de réduire quelque chose à néant. C'est ça la néantisation. Or, ce n'est pas ça du tout. Je suis capable de constater qu'il n'existe rien. Ce n'est pas moi qui le néantise. La néantisation, c'est une pure imagination. Je n'ai rien néantisé dans ma vie, grâce à Dieu. Et vous non plus, du reste. Et Sartre non plus. Et il a imaginé la néantisation. Pourquoi a-t-il imaginé la néantisation ? C'est pour que le néant ait quelque chose de positif du côté subjectif. C'est pour se faire comme Dieu. Dieu crée, Sartre néantise. Et Sartre ne peut néantiser que si Dieu n'existe pas. Donc Sartre devient le roi du néant, puisqu'il néantise. Et pour devenir le roi du néant, il faut que Dieu n'existe pas. Mais il faut essayer de comprendre. Quand un philosophe emploie le terme néantiser, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une action particulière par laquelle il crée le néant. Et créer le néant, c'est contradictoire. Parce que je ne peux pas créer le néant. Le néant, c'est ce qui n'est pas. Je ne crée pas ce qui n'existe pas, je le constate. Donc l'aspect de la subjectivité devient active dans la néantisation. C'est très curieux, votre chose. On va voir ça du reste, parce qu'il y a quelque chose, toujours, hein, dans toute erreur, il y a quelque chose de vrai. Alors, quel est le petit quelque chose de vrai dans la néantisation ? C'est que je peux créer des êtres de raison. Or, le néant est un être de raison. Donc, je peux créer un être de raison. Mais créer un être de raison, c'est du côté purement formel. Sans aucune efficacité. C'est l'heure. Seigneur est avec